Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Loridon, Bertille Bourdon et Nicolas Sendé. À la réalisation, c'est Benjamin Hu, à la technique, Alexandre Dang. Troisième volet de notre série consacrée au monde post-Covid, après avoir parlé du risque d'une deuxième vague populiste, de la course au vaccin et demain de la question de la transformation du travail, place ce matin à l'économie de l'Europe aux États-Unis, les nouveaux plans de relance.
Je m'apprête à signer le plus grand plan d'aide économique de toute l'histoire américaine ou de n'importe quel autre plan d'aide. Cela apportera un soutien pour les paiements directs aux individus et une aide sans précédent aux petites entreprises.
Nous envisageons d'envoyer des chèques aux Américains immédiatement. Les travailleurs nous disent que de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Les Américains ont besoin de liquidités maintenant. Et le président veut en avoir maintenant. Et maintenant, cela signifie dans les deux prochaines semaines.
Cette longue négociation a été marquée par des difficultés, parfois des oppositions, des conceptions différentes de l'Europe. Je suis convaincu que ce plan, ce budget, sont de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui les nôtres dans chacun de nos pays. Et que décider en quelque sorte de ne pas y répondre, c'eût été décider de dépenser beaucoup plus dans quelques mois ou quelques années.
Dans l'ordre, le président américain, le secrétaire d'État au Trésor américain et puis le président Emmanuel Macron. La pandémie a provoqué un plongeon historique de l'économie mondiale. Le bilan n'est que provisoire, mais il laisse entrevoir l'étendue des dégâts. Du côté des États-Unis, désormais officiellement en récession, le PIB s'est contracté de 9,5% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2019. Du côté de la zone euro, c'est une chute historique de 12,1%. Alors, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle aux États-Unis après un premier plan de 2200 milliards de dollars, puis un autre de 500 milliards en avril. De nouvelles mesures pourraient arriver à condition de dépasser des blocages politiques. Côté européen, après l'annonce d'un accord historique en juillet dernier, qui pour la première fois permettra de lever un emprunt commun de 750 milliards d'euros, on attend désormais de savoir quand arrivera l'argent, concrètement à qui il bénéficiera. Enfin en France, après les premières mesures de chômage partiel et de primes, on attend d'ici demain les détails du fameux plan de relance à 100 milliards d'euros. Les plans de relance, aussi historiques soient-ils, seront-ils suffisants pour combler les pertes provoquées par le confinement des économies? Quels sont les outils à disposition? Quels sont les choix des uns et des autres? Passer les mesures d'urgence et alors que la pandémie continue de se propager, les États auront-ils les ressources pour tenir dans la durée? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin d'abord Jezabel Coupé-Soubéran. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes conseillère scientifique désormais à l'Institut Veblen. J'indique pour les auditeurs que vous avez publié récemment deux ouvrages. D'abord un pour les grands, l'économie mondiale 2021 qui est paru à la Découverte. Vous dirigez cette collection. Et l'autre pour les moins grands, mais aussi pour les grands, qui est une BD qui est parue chez Casterman, intitulée L'économie. Donc on est en pleine rentrée des collèges. C'est parfait pour les collégiens, ça.
Tout à fait. C'est l'économie en BD. C'est pour les collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes.
Et ben voilà un bel achat de rentrée. Avec nous également depuis Washington, Nicolas Véron. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment Nicolas Véron d'être avec nous depuis Washington et merci doublement parce que vous êtes levé très tôt. Vous êtes économiste au think tank européen Bruegel à Bruxelles et au Peterson Institute de Washington. Vous aviez écrit, vous c'était il y a quelques années, le grand dérèglement chronique du capitalisme financier et plus récemment l'union bancaire, un succès européen. Première question, et je vais commencer avec Jezabel Coupé-Soubéran qui est avec nous ici à Paris. Depuis le début de la crise, on le voit, tous les États ont sorti des plans de relance destinés à soutenir leurs économies. On lance tout ça à grand coup de milliards, de milliers de milliards, de centaines de milliards de dollars ou d'euros. Cet argent, évidemment, il va créer de la dette. Ça veut dire que pour tout le monde, la dette, c'est plus un problème ou la situation est telle qu'en réalité, c'est le seul chemin qui s'offre à nous aujourd'hui?
Alors effectivement, il faut planter le décor. Le décor, c'est un véritable désastre économique avec la nécessité de faire face à un recul de la production, une augmentation massive du chômage. Donc il a fallu d'abord un soutien économique, et là, faut envisager des relances. Ça nécessite d'engager des dépenses énormes, et ces dépenses, il faut les financer. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on finance ces dépenses ? La seule réponse qui est apportée aujourd'hui, c'est on finance ces dépenses en endettant les États et en facilitant également l'endettement des entreprises. Il y aurait des solutions alternatives. Des solutions alternatives que les banques centrales, pour le moment, et en tout cas la Banque Centrale Européenne, se refusent à envisager. Mais la solution alternative, surtout si vous voulez, dans une configuration où en fait, on est entré dans cette crise, avec des niveaux d'endettement public et surtout privé très élevés. Mmh. C'est un peu ça le problème, parce que la dette, c'est pas un problème en soi. La dette, c'est un instrument de financement. Mais
quand elle est trop importante.
Oui, le risque pour les États, effectivement, qui là vont être à l'issue de ces plans, vont être considérablement endettés, c'est soit dans le cas de certains pays européens, de s'exposer à un risque ensuite de pression à l'austérité, soit sur les marchés de s'exposer à un risque de retournement de l'humeur des investisseurs et tout à coup faire face à des taux d'intérêt qui seront beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc il y a des alternatives à la dette. Peut-être qu'on va.
On va en parler.
On va en discuter. Mais pour le moment.
Il y a une forme de consensus, on a quand même l'impression, et du côté des États-Unis et du côté de l'Europe, pour dire que de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Même du côté de l'Allemagne, on a par exemple décidé de lever momentanément la limitation de l'endettement. On sait combien en Allemagne la rigueur budgétaire est importante. C'est un signe.
Ce qu'il faut.
Il y a un consensus.
Alors, le consensus, c'est qu'il faut de la dépense. Il faut de la dépense publique, ça c'est incontestable. On a besoin effectivement de dépenser massivement, et en ça, si vous voulez, on assiste à une réhabilitation de la politique budgétaire, à la réhabilitation de l'action budgétaire des États. On a besoin de dépenses publiques. Se posent ensuite deux questions une fois qu'on a dit ça. C'est où vont ces dépenses? À quoi ça va servir? Dans un premier temps, ça a servi surtout à combler des pertes. D'accord? C'était les mesures de soutien. Là, maintenant qu'on est dans l'étape relance, il faut absolument que ces dépenses servent en fait aussi à refonder nos modèles économiques, et que ça permette justement d'investir au bon endroit. Et la deuxième question clé, c'est comment est-ce qu'on finance cela? Alors, aujourd'hui, tout le monde dit, on permet aux États de s'endetter. Les banques centrales sont là pour racheter les titres de dette des États. Pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je pense qu'il y a quand même une question, si vous voulez, à se poser. Et non pas parce que j'aime pas la dette, parce que pour moi, c'est pas un problème en soi. Mais je pense qu'on est dans une situation inédite, vous l'avez dit. Et en fait, on pourrait très bien envisager soit des annulations de dettes pour la dette détenue par les banques centrales, et en particulier par la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est tout à fait faisable, et ça permettrait aux États de s'engager dans ces dépenses sans dégrader aussi fortement leurs finances publiques.
Et ça risque d'altérer considérablement la confiance.
Mais non, pas du tout.
Et donc de poser un problème sur les investissements qui sont indispensables pour relancer la machine.
Mais je crois tout le contraire, en fait, si vous voulez. Parce que si on permet aux États de s'engager dans ces plans de relance sans s'étrangler autant financièrement, sans s'exposer à un risque demain de retour à l'austérité, ou sans s'exposer à un risque de retournement d'humeur des marchés financiers, on libérera la dépense publique. Et ça, c'est tout à fait possible, de permettre à la Banque centrale d'annuler une partie des dettes qu'elle détient. C'est encore sujet tabou au niveau de la Banque centrale, parce que la dette, c'est un sujet très électrique. La dette, c'est un instrument de financement, mais c'est aussi un instrument de soumission. Il y a une dimension très, très politique. Quant à l'autre solution alternative, qui serait, on monétise vraiment ces dépenses publiques. C'est-à-dire que on fait en sorte que la Banque centrale donne de la monnaie centrale aux États. D'accord? Comme ça, ça n'augmente pas la dette publique. Ça, c'est rigoureusement interdit par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc ça, il y aurait un sujet.
C'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, enfin ce que Milton Friedman avait appelé la monnaie hélicoptère en 1969, sans d'ailleurs en recommander l'usage à l'époque.
Oui, c'est une version très élargie de la monnaie hélicoptère. J'en ai un peu discuté justement dans une note de l'Institut Veblen au mois d'avril dernier, où ce qui était préconisé, c'était un transfert de monnaie centrale aux États, puis aux ménages et aux entreprises, de façon à relancer directement l'activité, à ce que l'argent, si vous voulez, la liquidité, cette liquidité des banques centrales arrive directement dans l'économie réelle, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Tout cet argent, entre guillemets, créé par les banques centrales, certes, facilite l'endettement des États, mais rejoint quand même assez difficilement l'économie réelle et profite beaucoup plus aux bourses, aux marchés financiers, aux banques qu'à l'économie réelle.
Nicolas Véron, on a un petit peu patienté pour vous donner la parole et pour être tout à fait transparent, on a eu aussi un problème de connexion, on vous a enfin retrouvé. On a depuis quelques minutes avec Jezabel Coupé-Souverain, une discussion autour de cette question de la dette. C'est vrai qu'on en parle énormément ici en Europe. Il semble qu'aujourd'hui il y a un consensus pour dire que de toute façon il n'y a pas d'autre choix que de créer de la dette. Jezabel Coupé-Souverain nous dit qu'il y a quand même d'autres outils qui permettraient justement de relancer la machine économique. Qu'en est-il aux États-Unis ? Est-ce que c'est un débat que celui de la dette, du fait que là on est en train de déverser des milliards de dollars qui vont à un moment devoir être remboursés, ou est-ce que finalement on n'en parle pas, c'est pas un sujet, il n'y a pas de débat autour de ces questions ? Nicolas Véran, aux États-Unis c'est comment ?
Alors, avant de mentionner la situation aux États-Unis, je voudrais quand même revenir sur le débat européen, puisque malgré les problèmes de connexion, j'ai pu entendre votre discussion précédente. Et je crois qu'il faut revenir à la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité dans laquelle les États, que ce soit dans l'Union européenne ou aux États-Unis, n'ont pas de difficulté à emprunter. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas de difficulté à emprunter, c'est parce que les marchés acceptent la logique que vous avez mentionnée, qui est que c'est peut-être embêtant d'avoir à emprunter autant, mais il n'y a absolument aucune autre voie raisonnable aujourd'hui pour affronter la calamité qui a été le choc de la pandémie. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. Alors, le problème qu'on avait en Europe, et spécifiquement dans la zone euro, au moment de la crise précédente, de la crise de la zone euro, c'est que les marchés ne faisaient pas confiance en la capacité de remboursement de certains États membres de la zone euro. C'est ce qu'on a appelé les spreads, vous vous souvenez, lorsque les différentiels de taux d'emprunt de l'Italie, de la Grèce, d'autres États membres devenaient prohibitifs. Mais ce problème a été réglé. Il a été réglé par l'action de la Banque Centrale Européenne en mars, et ensuite les politiques ont pris le relais avec le plan de relance, le plan Next Generation EU qui a été annoncé en juillet. Et le résultat de tout ça, c'est pas de l'alchimie financière, c'est vraiment de la création de confiance. C'est qu'aujourd'hui, même les États membres les plus fragiles comme la Grèce et l'Italie n'ont pas de difficulté d'emprunt et n'auront pas de difficulté à emprunter sur les marchés tant que durera cette période exceptionnelle dans laquelle tout le monde est d'accord pour dire que une dette supplémentaire est absolument indispensable pour affronter le choc économique. Donc de ce point de vue-là, il y a des situations très comparables en Europe, dans l'ensemble des pays de la zone euro et aux États-Unis, qui sont que, pour être très franc, moi je suis en désaccord avec Jezabel Coupé-Souverain, il n'y a pas besoin aujourd'hui que la Banque centrale annule les dettes, les créances qu'elle a vis-à-vis des États membres, puisqu'il n'y a pas de problème de dette. C'est pas le problème du moment. Le problème du moment, comme elle y a fait référence, c'est de faire en sorte que toute cette liquidité, tout cet argent qui est accessible pour les États membres et offert par les marchés, il arrive à l'économie réelle et il permet de faire rebondir l'économie. Mais la réalité, on la connaît bien, c'est qu'aujourd'hui, l'obstacle à la croissance économique, c'est pas le manque de liquidité, c'est le virus, c'est l'incertitude qui est liée à la situation sanitaire. Et malheureusement, on a cette situation qui est extrêmement dure, mais avec laquelle il faut apprendre à vivre, c'est que tant qu'on n'aura pas mis sous contrôle les incertitudes liées au virus qui n'ont rien à voir avec l'économie et la finance, on n'aura pas une reprise très vigoureuse, parce qu'on aura cette épée de Damoclès qui continue de peser sur l'économie. Et ça, c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en Europe. À vrai dire, la situation est pire aux États-Unis puisque, comme vous le savez, l'épidémie est beaucoup moins sous contrôle aujourd'hui aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe.
Alors, j'ai essayé de faire réagir Jezabel Coupé-Souverain qui a très envie de le faire, et j'oublie pas la première question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. On va essayer de tout faire. On a finalement beaucoup trop peu de temps pour évoquer tout ce qu'on a prévu, mais on va essayer de faire au mieux. Jezabel Coupé-Souverain, il y a une chose qu'a dit Nicolas Véron qui est juste, c'est que Il dit la dette, c'est pas le problème aujourd'hui. En tout cas, le vrai problème, c'est la crise sanitaire. Et effectivement, cette crise, elle a ceci de spécifique qu'elle n'est pas vue, elle n'est pas venue d'un dysfonctionnement de l'appareil économique mondial ou de la finance mondiale, comme on l'a vu ces dernières décennies. C'est une crise qui vient d'ailleurs, qui est d'une certaine manière aéconomique. Est-ce que ça rend pas la chose un peu différente? Et est-ce qu'au fond, les outils qu'on doit utiliser du coup pour relancer la machine ne sont pas un peu différents?
Alors, je vais profiter du fait que Nicolas soit loin, comme ça, il va pas pouvoir vraiment venir m'arracher les cheveux. Mais je pense que l'alchimiste dans l'histoire, le devin, c'est Nicolas, c'est pas moi, parce que Nicolas nous dit aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de problème, et il en déduit que demain il n'y aura pas de problème non plus. Mais moi, justement, je considère, si vous voulez, ce qui pourra se passer demain, ce qui peut se passer demain si on laisse précisément les dettes publiques s'envoler de cette manière, c'est un risque de crise de dette souveraine, c'est un risque de crise financière. Et quand Nicolas Véron nous dit aujourd'hui on sait traiter une crise de dette souveraine, on sait endiguer une crise financière, ce n'est tout simplement pas vrai, dans la mesure où les dispositifs qui ont été mis en place, les dispositifs de résolution qui ont été mis en place pour les crises financières sont largement insuffisants. Quant au mécanisme européen de stabilité, on sait pertinemment aussi qu'il ne suffira sans doute pas. Donc je pense que ces risques-là, il ne faut pas les négliger. Par ailleurs, quand on dit il faut penser à demain, il faut effectivement que ces plans de relance soient, non pas, si vous voulez, des relances pour la relance, mais une relance pour refonder nos modèles économiques et pour notamment accélérer la transition écologique. Pour ça, on a besoin de dépenses massives et de dépenses orientées vers l'investissement. Et juste un point vous me disiez, mais cette crise sanitaire, au fond, c'est le problème essentiel et c'est tout à fait extérieur à l'économie. Je crois que ça, c'est vraiment c'est une erreur d'analyse. Il faut cesser de considérer que ce risque sanitaire est totalement indépendant de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation. C'est lié à la dégradation de la biodiversité. Et ça, c'est évidemment pas étranger à nos modes de production et à nos modes de consommation. Et demain, ce sera le risque climatique. Et de la même manière, eh bien, il faudra s'interroger sur la façon de lutter contre ce risque climatique. Ça exige là aussi des dépenses, et ces dépenses, il faudra les financer autrement qu'en se mettant systématiquement en risque vis-à-vis des marchés ou vis-à-vis de l'austérité.
Sans faire l'avocat de Nicolas Véron, je crois que ce qu'il disait tout à l'heure quand il disait il n'y a pas de problème de dette, c'est au fond il n'y a pas de problème pour emprunter. Les États peuvent aujourd'hui emprunter, c'est pas le souci, mais il est là, donc il va faire
aujourd'hui.
Son propre avocat.
Aujourd'hui,
Nicolas Véron, vous vouliez réagir, je vous en prie.
Je crois qu'on n'est pas là pour polémiquer et il faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, on a un problème à court terme. On a des tas de problèmes à long terme. Le problème environnemental, qui est pas seulement un problème de long terme d'ailleurs, comme on peut le voir tous les jours avec les catastrophes naturelles qui s'accélèrent. Le problème sanitaire qu'on a est peut-être lié à la dégradation de l'environnement. Bon, la peste noire au Moyen-Âge, c'était pas dans un contexte de capitalisme triomphant. Donc, les pandémies, de toute manière, on en aura toujours. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en a pas eu en 100 ans, mais c'est un risque qui avait été parfaitement prévu. Je crois que aujourd'hui, ne mélangeons pas tout. On a une crise majeure qui est liée à la propagation d'un virus particulier. Tant qu'on n'aura pas ce virus sous contrôle, le reste sera relativement secondaire. C'est le virus qui mène la danse aujourd'hui, qui donne le tempo de la reprise économique, et on le voit bien aux États-Unis où la situation se dégrade continuellement, précisément parce qu'à cause du dysfonctionnement du gouvernement fédéral, le virus est encore moins sous contrôle qu'il ne l'est en Europe.
On va parler des États-Unis, Nicolas Véron, mais il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure sur laquelle je voudrais vous entendre. Vous disiez au fond, le problème c'est pas tant de sortir l'argent pour la relance, mais c'est de savoir s'assurer qu'au fond l'argent qu'on sort va bien là où il faut. Si on prend le cas de l'Union européenne par exemple, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, 750 milliards d'euros, on a parlé d'un accord historique et effectivement, on a là au fond une solidarité nouvelle, les fameux frugaux en Europe ont fini par plier et on a réussi à mettre sur la table de l'argent au nom de l'Union européenne qui sera remboursé au nom de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour s'assurer qu'il arrive au bon endroit? On a demain une annonce qui va arriver du gouvernement français, 100 milliards d'euros, et parmi ces 100 milliards, il y aura 40 milliards environ qui vont venir de l'Union européenne et de cet argent qui a été débloqué précisément. Comment on fait pour s'assurer qu'il va au bon endroit, cet argent, Nicolas Véron? Et c'est quoi le bon endroit?
Alors, effectivement, et c'est là qu'en France, on a beaucoup le goût de l'idéologie et le goût des polémiques. Et donc, cette question, il est très difficile de trouver une bonne réponse à cette question. Puisque si on donne l'argent aux entreprises, c'est un cadeau aux entreprises. Or, on a bien besoin que ce soit les entreprises qui fassent tourner l'économie. On n'a pas de modèle alternatif. Donc, on est un peu dans un dilemme qui est de savoir quelles vont être les conditionnalités de cet argent. Est-ce qu'on peut le distribuer entièrement sous forme de prêts aux entreprises, donc des prêts qui vont être garantis par l'État, ce qu'on a déjà beaucoup fait depuis mars. Mais est-ce qu'à un moment, on n'arrive pas à une limite dans laquelle les entreprises sont trop endettées, même avec des prêts à des conditions favorables, et que le fardeau de cette dette à rembourser à l'avenir devient trop important? Est-ce que ces prêts devront être transformés en subventions? Tout ça sont les discussions actuelles. Mais je voudrais quand même dire que beaucoup a été fait depuis mars. Hein. Les entreprises, dans l'ensemble, ont remarquablement peu de problèmes de trésorerie. Il y a eu remarquablement peu de licenciements, il y a eu remarquablement peu de faillites en Europe, et la France ne fait pas exception, depuis mars, compte tenu de la violence extraordinaire du choc économique qui a été associé au virus et au confinement. Donc je dirais que, comme dans l'ancienne blague, vous vous souvenez, jusqu'ici tout va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité de l'intervention publique à maintenir le système économique en état a en fait été très forte. De ce point de vue-là, Isabelle Coupé-Soubéran a raison de dire que les inquiétudes, elles sont pour l'avenir et pour la manière dont on va sortir de ce système d'assistance, de mise sous assistance de l'économie. Mais le problème n'est pas un problème de faire arriver l'argent aux entreprises, puisque de ce point de vue-là, dans un pays comme la France, le système a remarquablement bien fonctionné. On a mis les banques à contribution, l'argent a été distribué, l'argent du prêt garanti par l'État a été distribué largement par les systèmes bancaires. On a trouvé des systèmes pour les indépendants, pour les très petites entreprises. Pour ma part, je suis très surpris de voir à quel point ce système a atteint ses objectifs en termes de disponibilité de l'argent pour des entreprises et des acteurs économiques qui en avaient besoin. Mais évidemment, le choc est tel qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés, et surtout, il y a beaucoup d'incertitudes sur la sortie, parce qu'on ne sait pas quand est la sortie. Je répète, au risque d'être très insistant, l'incertitude sur la sortie, c'est l'incertitude liée au virus. Si le virus disparaissait du jour au lendemain, demain matin, on aurait finalement assez peu de craintes sur les prochaines étapes.
Ouais. Isabelle Coupé-Soubéran, sur la bonne cible pour justement relancer l'économie, est-ce que vous rejoignez ou pas Nicolas Véron, qui a l'air d'insister sur justement une politique de l'offre, c'est-à-dire aider essentiellement le système productif, les entreprises, les industries, ou est-ce que vous avez une vision différente? Et puis, je voudrais qu'on revienne aussi un instant après, si vous le voulez bien, sur la question des conditions qui sont derrière ce fameux fonds de 750 milliards, parce qu'on ne va pas le donner contre rien. Isabelle Coupé-Soubéran.
Oui, plusieurs éléments de réponse et de réaction. Je pense que penser à demain en traitant le problème d'aujourd'hui, c'est pas être polémique. D'accord, c'est simplement avoir un peu plus de vision au-delà du court-termisme ambiant. Je pense qu'il faut se garder d'avoir une vision idéalisée de la situation. Alors certes, je pense que l'Europe s'en sort peut-être un peu mieux que les États-Unis, mais quand on regarde, si vous voulez, quand même les chiffres du deuxième trimestre 2020, on va pas dire que tout se passe bien en Europe, dans la zone euro, et d'ailleurs que tout se passe bien en France. Hein, on a, si on regarde les chiffres de croissance, si vous regardez le recul du PIB au deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre, là, par rapport à celui de l'année dernière, on est à moins 15% en zone euro. On est à moins 18,9%. En France, d'accord. Donc c'est énorme. Quant au chômage, certes, il a un peu moins augmenté qu'aux États-Unis, en Europe, mais quand même, enfin ça augmente massivement. Et si vous prenez l'ensemble des pays de l'OCDE, le chômage a plus que doublé depuis juin 2019. Donc on est quand même, si vous voulez, dans une situation qu'on n'est pas en train de maîtriser complètement. Quant à l'action de soutien qui a été menée, reposant effectivement essentiellement sur du financement de chômage partiel et sur des prêts garantis par l'État en France, ce sont des mesures sans doute nécessaires, mais assurément pas des mesures suffisantes et sans doute également, si vous voulez, des mesures qui traduisent une orientation vers l'offre quasi exclusivement. Et ça, on le retrouve aussi au niveau européen, pas partout. L'Allemagne, aujourd'hui, après avoir d'ailleurs beaucoup compressé sa demande dans les années passées, eh bien, aujourd'hui, l'Allemagne, au contraire, est en train de se focaliser un peu plus sur la demande que ne le font d'autres pays européens, et en particulier la France. L'Allemagne a décidé une baisse massive de TVA, une prime au ménage, des allègements de factures d'électricité. En France, on n'a pas ça.
Et on n'en aura pas demain ?
On verra, on ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des surprises dans ce genre-là, mais j'ai l'impression quand même, si vous voulez, que le logiciel qui permet au gouvernement français d'analyser la situation, c'est un logiciel fixé sur l'offre. Et il considère que, et c'est ce que nous a dit Nicolas Véran finalement, il considère que il faut surtout soutenir les entreprises et que de cette manière tout ira bien. Il me semble que on est face à un double choc. En fait, cette crise sanitaire, c'est un double choc. Ça choque à la fois l'offre, parce que ça vient plomber la production des entreprises, ça choque la demande, ça vient plomber la consommation des ménages. Face à ce double choc, il faut soutenir conjointement l'offre et la demande.
Isabelle Coupé-Souyran, j'entends, mais par exemple, quand on voit que les Français ont considérablement accru leur épargne, c'est-à-dire que de l'argent, ils en ont, pourquoi leur en donner ?
Alors,
Mais
vous avez raison de le faire, parce que c'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui. On entend qu'en fait, c'est pas la peine de venir soutenir la demande des ménages, parce que ils ont beaucoup épargné pendant le confinement, et qu'il y a un surplus d'épargne monumental. Alors, deux choses par rapport à ça. Un, qui épargne ? Est-ce que ce sont tous les ménages qui épargnent ? Non, ce sont les plus riches qui épargnent. Donc, ce supplément d'épargne, il est très mal réparti. On a très peu de données pour analyser ces répartitions, ces problèmes de répartition, et on préfère fermer les yeux sur ces problèmes de répartition. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est à tous les macroéconomistes qui oublient d'intégrer les banques et la finance dans leur raisonnement, qui nous disent il suffit en fait de mobiliser cette épargne et puis de l'amener au bon endroit. Il faut quand même rappeler que cette épargne, elle n'est pas dans une tirelire au fond d'un buffet. Elle n'est pas sous le matelas des ménages. Elle est où, cette épargne ? Elle est sur des comptes bancaires. Elle est sur des comptes d'épargnants, éventuellement chez d'autres intermédiaires financiers, dans l'assurance vie, etc. Et ça pose donc la question de savoir ce que font ces intermédiaires financiers de ces ressources supplémentaires. Eh bien, manifestement, ils ne l'orientent pas vers l'investissement, sinon l'investissement redémarrerait davantage.
Nicolas Véran, toujours depuis Washington, quand vous entendez Isabelle Coupé-Souyran nous dire finalement le gouvernement français n'en fait pas assez sur la demande, regardez ce qui se passe du côté de l'Allemagne, on a compris qu'il faut davantage soutenir les ménages. Qu'en pensez-vous, Nicolas Véran ? Vous dites ça suffit, on les a suffisamment soutenus, vous dites oui, en effet, il faut peut-être faire un peu plus.
Vu de Sirius ou vu des États-Unis, la différence entre les réactions de la France et de l'Allemagne, elle est à la marge. C'est-à-dire que le cœur de la réponse au choc... Isabelle Coupé-Souyran a absolument raison de dire qu'on fait face à un choc économique majeur, qu'on a des chiffres sur la croissance, ou plutôt la décroissance, qui sont sans précédent compte tenu de la rapidité à laquelle cette dégradation de la conjoncture a eu lieu. Tout ça, on le sait, c'est vrai. La question, c'est quelle est la réponse en termes de politique publique ? Et de ce point de vue-là, il y a une très grande convergence entre les réponses des différents pays européens. Il y a des différences qui sont liées aux différences de systèmes de protection sociale, d'organisation du travail, etc. Mais elles sont vraiment tout à fait marginales.
Et l'essentiel en de France, la par exemple, si on prend l'exemple de la TVA, en France, on n'a pas touché à la TVA et c'est quand même un outil très important qui a un effet conséquent. On ne peut pas dire que ça soit exactement la même chose.
Oui, mais c'est enfin d'abord, je pense qu'une baisse de la TVA aujourd'hui ne changerait rien à la consommation des ménages ou très à la marge, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui ce qui retient la consommation, c'est que les gens sont confinés, soyons un peu concrets. et que les gens ont beaucoup d'incertitudes, ils ont peur, ils ont raison d'avoir peur parce qu'il y a une incertitude considérable face à l'avenir. Et d'autre part, la baisse de la TVA n'est de loin pas le point essentiel de la réponse de l'Allemagne à la crise Covid. Si vous regardez où vont les gros bataillons budgétaires, ils vont effectivement comme chez nous. Ils vont vers le chômage partiel, vers les prêts garantis par l'État, et vers ensuite des mesures ciblées vis-à-vis de telle ou telle entreprise ou telle industrie. Si on élargit un peu le champ et qu'on regarde la différence avec les pays d'Asie de l'Est, la performance économique des pays d'Asie orientale, Chine, Japon, Corée, Taïwan, elle va être bien supérieure à la nôtre cette année. Mais encore une fois, le facteur de loin de premier ordre, c'est la réponse au virus, c'est le fait que les gens pour une série de raisons qui sont culturelles, qui sont liées au fait qu'ils ont eu l'expérience de l'économie de SARS il y a quelques années, etc., ont tout de suite eu une beaucoup meilleure discipline collective que nous. Ils ont mis le masque. Il y a eu des problèmes là-bas aussi, dans des discothèques, dans des églises, etc. Mais il y a eu quand même beaucoup moins de contagions que chez nous. Et c'est ça qui leur permet d'avoir une performance économique supérieure. Donc je pense que le débat sur la redistribution, sur la relance par la demande, etc., c'est un débat légitime. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui va changer de manière radicale les chiffres de réaction au choc économique qu'on est en train de subir, certainement à court terme et même à moyen terme.
Je pense que c'est un peu important et qu'en tout cas, ça a dû un tout petit peu animer notre gouvernement ici en France ces quelques dernières semaines pour précisément trancher et faire les choix. Isabelle Coppé-Soubeyran, vous n'aviez pas l'air d'accord sur la réponse allemande ?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que non seulement l'Allemagne est plus tournée vers la demande, dans sa réponse, mais elle est également beaucoup plus tournée vers l'investissement public. Et je pense que c'est ça qui risque de manquer dans le plan de relance français.
Qu'est-ce qu'il y a du côté allemand dans l'investissement public ?
Il y a un investissement massif dans les transports, dans le numérique, dans la santé. Est-ce qu'on aura cette orientation-là dans le plan de relance français ? Espérons-le, mais c'est loin d'être certain. C'est un aspect important. Et vous voyez, ça veut dire qu'en fait, cette relance, elle doit porter à la fois sur la demande et sur l'offre, et sur l'offre au sens large. Or, les tenants, en fait, de l'orientation par l'offre, généralement, ne considèrent que l'offre du secteur privé. Or, c'est aussi l'offre du secteur public. C'est tous les services publics qu'il faut essayer de remettre vraiment en bon état de fonctionnement. C'est ça l'important aussi pour demain. D'accord ? Donc ce sont, me semble-t-il, les aspects clés. Et je crois qu'en fait, pour réduire l'incertitude. Alors, bien sûr que si on avait un vaccin demain contre le coronavirus, ce serait une très bonne manière de réduire d'emblée cette incertitude. Mais ce vaccin, on va peut-être l'attendre assez longtemps. Et je crois que réduire l'incertitude, ça passe aussi par le fait de fixer un cap sur l'avenir, d'essayer d'expliquer quel modèle économique on veut pour demain, un modèle nous protégeant mieux des risques sanitaires qui effectivement se sont peu manifestés dans les décennies passées, mais risquent de se multiplier dans les décennies à venir, et qui permettent aussi de parer davantage aux risques climatiques, parce que ce qu'on vit actuellement n'est peut-être que les prémices de ce qu'on vivra demain avec la crise climatique. Je pense qu'il faut absolument penser à tout ça. Si on est court-termiste, si on se fixe uniquement sur ce qui se passe aujourd'hui, je crois que on est à côté de ce qu'il faut faire.
Nicolas Véron, je voudrais qu'on avance un petit peu parce qu'évidemment le temps court terriblement et qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté des États-Unis où vous êtes maintenant depuis quelques mois, Nicolas Véron. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, il y a eu cette première vague de plan de relance de 1200 milliards de dollars. Il y a eu ensuite un autre paquet et là, on attend de nouvelles mesures. Il se trouve que elles se font attendre parce qu'on est face à un blocage politique du côté du Congrès. Est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor, Nicolas Véron, nous dire ce que veut le camp républicain, ce que veut le camp démocrate et ce que Trump voudrait lui imposer en se faisant peut-être là l'équilibriste de service et en tranchant les débats. Nicolas Véron.
Alors, le président Trump est évidemment un président un peu particulier. Il n'est pas du tout dans une posture d'équilibre. Il n'est pas dans une posture de médiateur. En réalité, ce qui s'est passé...
Normalement, c'est son rôle. Dans les institutions, ça devrait l'être, mais enfin...
Oui, mais malheureusement, le président Trump ne joue pas le rôle institutionnel habituel du président américain, et c'est particulièrement le cas actuellement puisqu'on est en fin de course de la période électorale, on est dans la dernière ligne droite avant l'élection début novembre. Et donc, je crois que c'est difficile, vu de loin, de réaliser à quel point le système institutionnel américain est en crise, en état de dysfonctionnement à peu près total ces temps-ci, y compris sur le maintien de l'ordre public. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que je comprends bien que quand on est en France, on a l'impression que tout est mal géré, tout va mal, le gouvernement fait n'importe quoi, il n'y a pas de coordination en Europe. Vu de Washington, le tableau est très différent. Le tableau, c'est celui d'une situation dans laquelle les pays européens ont dans l'ensemble eu, après quelques hésitations, après quelques ratés, une réponse assez rationnelle au choc de la pandémie, et une réponse qui est très coordonnée au niveau européen, qui est d'autant plus coordonnée que maintenant on a cette avancée absolument incroyable que personne n'avait prévue dans cet intervalle de temps du plan de relance communautaire. Non, c'est pas tellement le montant de 750 milliards, qui lui-même est assez élevé, mais c'est surtout le fait que ça va être financé par de l'emprunt européen, ce qui n'avait jamais été envisagé et encore moins mis en œuvre dans des volumes de ce type-là dans le passé.
Donc, ça impressionne les Américains.
Ah, ça impressionne beaucoup les Américains, ça impressionne beaucoup les marchés, et je peux vous dire que vu de Washington, on a un sentiment qui est complètement, et je parle au nom de mes collègues américains, pas seulement en mon nom propre en tant que Français ici, ce sentiment est complètement inversé par rapport à celui qu'on pouvait avoir il y a 5 ou 6 ans, qui était que l'Europe était une zone de risque, et particulièrement la zone euro une zone de risque pour le monde, et les États-Unis une zone de stabilité. Maintenant, c'est inversé. Le risque vient des États-Unis. La zone euro donne l'impression de faire les choses rationnellement, et c'est extrêmement angoissant pour le public américain, et notamment pour les observateurs de ce type de sujet.
Donc, mais là, vous parlez du camp démocrate. Vous parlez du camp démocrate, du côté républicain. On n'a pas le même son de cloche.
De manière générale, des gens qui sont dans le monde des politiques publiques. Et aussi des marchés, c'est pour ça que le dollar a baissé d'ailleurs, c'est pour ça que l'euro a remonté. Et si vous prenez le débat sur la relance budgétaire aux États-Unis, la réalité c'est que la loi de relance qui a été adoptée il y a quelques mois a été adoptée plutôt dans le dos du président Trump, c'est-à-dire qu'elle a été négociée au Congrès entre les démocrates qui ont la majorité à la Chambre, les républicains qui ont la majorité au Sénat, et le secrétaire au Trésor américain, Monsieur Mnuchin, qui a essayé au maximum de jouer les intermédiaires sans en référer trop au président Trump, parce qu'il savait que si Trump entrait trop dans la négociation, il allait tout casser. Et donc maintenant, Mnuchin a été mis dans une case, si vous voulez. Trump a repris par son chef de cabinet la main sur la négociation, et rien n'avance. Ça fait plusieurs mois que le système législatif américain n'arrive pas à passer à l'étape suivante, à se mettre d'accord sur le prolongement de l'effort initial de relance. Le système est complètement grippé. Il l'est de plus en plus, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans le calendrier électoral, et c'est une catastrophe pour l'économie du pays.
Là, c'est un blocage politique, mais si on regarde dans les propositions de l'administration américaine aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a et en quoi est-ce que ça se démarque de ce qui a été proposé il y a quelques mois dans ce grand plan qui a été, vous avez dit, élaboré assez largement par le Congrès en réalité. Là aujourd'hui, que veut Trump?
Ça va vous surprendre, et c'est d'une certaine manière complètement incroyable, et c'est sciant, si vous voulez. Mais il n'y a pas de proposition de Trump. Si vous regardez la convention républicaine de la semaine dernière, il n'y a pas eu une seule proposition de politique publique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le Parti républicain n'a pas de programme de mesures dans le cadre électoral. Le seul programme, c'est Trump, la famille Trump et la marque Trump. C'est un moment tout à fait particulier, hein. C'est un moment exceptionnel dans l'histoire politique américaine. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de proposition, il y a seulement un homme, et c'est angoissant, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à votre question, malheureusement. Bon, Trump, lorsqu'il est interviewé, dit des choses totalement incohérentes, et il n'y a pas de papier.
Bon, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de programme, nous dit Nicolas Véron. Isabelle Coupé-Souveron, avant d'accueillir un nouvel invité.
Effectivement, si on prend Trump et les États-Unis comme point de référence, on peut se dire que ça va plutôt pas mal. En tout cas, ça va plutôt mieux en Europe. Bon, je suis quand même assez d'accord, si vous voulez, avec un certain nombre d'éléments là mentionnés par Nicolas Véron quand il dit qu'aujourd'hui, en fait, pour les investisseurs, le risque vient des États-Unis. Effectivement, on est en train d'assister à quelque chose. Ces dernières années, ces dernières décennies, la position économique des États-Unis a décliné, mais ça ne s'accompagnait pas finalement d'un déclin au niveau financier. C'est-à-dire que le dollar rester la devise clé et au niveau des marchés financiers, les États-Unis constituaient véritablement l'hégémon financier mondial. Là, on voit une évolution du dollar qui dit des choses. En fait, le dollar a chuté vis-à-vis de l'euro. On peut interpréter ça comme la conséquence de la politique monétaire de la Fed, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais qui est une politique extrêmement accommodante, c'est-à-dire que la Fed injecte des liquidités dans le système financier américain, qui rejoignent pas nécessairement l'économie réelle américaine non plus d'ailleurs, mais par milliers de milliards de dollars. Ça peut se traduire par beaucoup plus de dollars en circulation dans l'économie mondiale, et donc ça explique en partie la chute du dollar. Mais ce que traduit aussi cette chute du dollar, c'est ce que disait Nicolas Véron. C'est sans doute, en fait, l'amorce d'une défiance des investisseurs vis-à-vis de la devise américaine et vis-à-vis des titres américains. Et ce qui veut dire d'ailleurs aussi que le financement de la relance aux États-Unis, si tant est que se mette en place un plan, eh bien posera peut-être plus de problèmes. Et juste peut-être un tout dernier petit point très rapidement. Est-ce que Trump a réellement intérêt à ce que la situation s'améliore aux États-Unis? En fait, s'il laisse faire, que va-t-il se passer? Eh bien, cette crise sanitaire va creuser l'écart qui est déjà béant entre les riches et les pauvres aux États-Unis. Qui vote pour Trump? Les riches, d'accord? Qui vote démocrate? A priori, les pauvres. Les mettre en incapacité économique totale et même en incapacité d'aller voter, au fond, c'est une bonne carte à jouer pour Donald Trump, malheureusement.
Vous parlez de défiance. On va justement évoquer évidemment cette question-là, puisqu'on va parler du paradoxe boursier, parce que pendant que les économies sont en récession, la bourse, elle, se porte comme un charme, et la bourse américaine en particulier. Mi-août, l'indice S&P, qui rassemble les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, battait des records, alors qu'il s'était effondré de 30% sur la période février-mars. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et la confiance affichée des investisseurs. Bonjour Laurent Ferrara.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment est-ce que vous comprenez ce record absolument incroyable de cet été, un succès insolent de cet indice S&P 500? Comment on peut le comprendre? Est-ce que c'est, comme le disait Jezabel Coupé-Souveran, la Fed qui a balancé énormément de liquidités et donc forcément ça va très bien du côté de la bourse, ou est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors oui, c'est une partie de la réponse. Et vous savez, en économie, il y a toujours tout un tas de facteurs avec des contributions différentes de ces facteurs. D'abord, la relation entre les cycles économiques et les cycles financiers, c'est une relation de long terme qui existe, mais qui est assez fragile, qui est assez complexe, qui est plutôt non linéaire, qui évolue pas mal au cours du temps. On sait que le prix d'un actif reflète les anticipations des dividendes futurs. Donc il y a une partie anticipative dans le prix d'un actif par rapport à l'économie réelle. Ce qu'on cherche quand on fait de la modélisation, c'est ce qu'on cherche à utiliser. Donc il y a une relation entre les deux qui existe, mais qui est assez compliquée. La période Covid, ce qui s'est passé, on a vu trois phases. D'abord, jusqu'à fin février, il ne s'est pas passé grand-chose. Les marchés n'ont pas intégré forcément cette pandémie. Et puis, à partir du moment où on a réalisé que cette pandémie allait affecter l'ensemble de l'économie mondiale, on a vu cette chute que vous avez notée de 30% jusqu'à fin mars. Et le moment crucial, c'est fin mars, c'est 23-24 mars, c'est-à-dire c'est le moment des annonces des banques centrales. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a vu une hausse à nouveau du prix des actifs, et qui fait qu'aujourd'hui, à peu près aux États-Unis, on est à peu près 5% au-dessus du niveau de janvier. Au Japon, on est au niveau de janvier, puis en zone euro, on est un petit peu en dessous. Alors, la question, c'est savoir pourquoi. Pourquoi on a vu cette hausse. Donc, D'abord, il y a des idées, des éléments à éliminer. Je pense pas que ce soit grâce à Trump qui a une gestion assez catastrophique de la pandémie. Je pense pas non plus que ce soit les marchés qui anticipent une reprise en V. Parce que bien on s'aperçoit qu'il va falloir un petit moment quand même pour revenir à l'état pré-Covid. Le principal facteur à mon avis, c'est il faut regarder du côté des taux d'intérêt. Donc ça a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, les taux d'intérêt des économies sont extrêmement faibles. Aux États-Unis, le taux d'intérêt de long terme auquel l'État américain emprunte est à 0,7% aujourd'hui. D'accord. Donc ce taux est extrêmement bas. Il a chuté de manière assez incroyable depuis les années 70. Ce qu'on appelle, il y a un taux d'intérêt naturel, ce concept de taux d'intérêt naturel, c'est-à-dire c'est le taux d'intérêt de l'économie si tout allait bien, si l'inflation était à 2%, si la croissance était à son potentiel, etc. Et on a vu ce taux d'intérêt chuter en ligne, en fait, avec la baisse de la productivité, avec la baisse de la croissance potentielle aux États-Unis. Donc, c'est des facteurs structurels. Hein, la croissance potentielle aux États-Unis, elle était à 4% dans les années 70, puis elle est à 3%. Et puis, depuis quelques années, elle est autour de 2%. Et là, on s'inquiète de savoir si elle ne va pas descendre à 1%. Vous voyez, il y a une baisse quand même assez marquée au cours du temps. Donc, aujourd'hui, les acteurs sur les marchés financiers cherchent du rendement. D'accord, on ne peut plus aller, les actifs sans risque sont tellement faibles en termes de taux d'intérêt que les acteurs sont obligés de chercher du rendement. Et là, le rôle de la Fed ici a été super important à fin mars, puisqu'elle a injecté énormément d'argent. Aujourd'hui, la Fed possède à son bilan environ 7 000 milliards de titres, alors qu'elle en avait 4 000 milliards avant le Covid, donc c'est énorme. Donc il y a eu un afflux de liquidités sur les marchés. Aujourd'hui, les acteurs de marché cherchent le rendement et vont sur des actifs un peu exotiques, quelquefois, mais surtout aujourd'hui vont sur les marchés actions.
Alors après ils choisissent, hein, parce que quand on dit que le S&P va très bien, c'est vrai. Donc effectivement, quand on regarde un peu les choses, Microsoft et autres Google se portent très bien. Mais si on change d'indice et qu'on regarde le Dow Jones, par exemple, qui regroupe des valeurs beaucoup plus classiques, hein, l'énergie, le transport aérien, etc., etc., on voit que là, c'est pas du tout la grande forme. En tout cas, on n'a absolument pas retrouvé les niveaux d'avant février. Isabelle Coupé-Soubéran, il y a effectivement, vous le disiez, donc cette Fed qui a soutenu ces marchés, qui a injecté beaucoup d'argent. Il y a aussi ce que disait Laurent Ferrara, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, d'une certaine manière, l'argent n'est pas cher. Et donc, il faut trouver d'autres endroits pour investir. Est-ce que tout cela jusqu'où tout cela est de mauvais augure? Est-ce que là, on est en train, en gros, de nous préparer quelque chose qui est de l'ordre d'un futur crash boursier, d'une future crise financière et économique massive avec de l'argent pas cher, des indices, certains qui sont très hauts, d'autres qui sont très bas, de l'argent, des liquidités partout qui découlent des banques? Enfin, votre regard?
Oui, je vais peut-être jouer les Cassandres, mais effectivement, c'est le risque, c'est une formidable crise financière, bancaire et financière, qui viennent redoubler finalement la crise économique que nous traversons, elle-même entraînée par la crise sanitaire. Revenons sur les différents éléments. Laurent nous disait, bon, il y a une grande part d'explication dans la politique monétaire, mais l'autre part d'explication, c'est surtout le niveau bas des taux d'intérêt liés à des facteurs plus structurels, la démographie, l'excès d'épargne, etc. Les niveaux bas de taux d'intérêt, c'est aussi lié à la politique monétaire. Il y a des facteurs structurels et il y a également la politique monétaire. C'est-à-dire, quand les banques centrales interviennent pour participer à l'effort de soutien, à l'effort de relance, première chose, elles abaissent les taux d'intérêt. Elles l'ont fait en 2007-2008 avec justement un peu plus de marge de manœuvre. On est d'ailleurs entré, si vous voulez, dans cette crise sanitaire avec un niveau de taux d'intérêt extrêmement bas du fait de l'action des banques centrales. Donc tout ça est, encore une fois, est très très lié à la politique monétaire. Cette politique monétaire, elle profite beaucoup plus aux marchés financiers et aux banques qu'à l'économie réelle, parce qu'une grande part de cette politique consiste en des achats en des achats de titres, des achats d'actifs sur les marchés secondaires. Ça soutient le prix de ces actifs, ça fait baisser les taux longs. Et pour autant, même la baisse des taux d'intérêt à long terme ne permet pas de stimuler beaucoup l'investissement des entreprises, sinon peut-être que cela facilite le financement des grandes entreprises sur les marchés. Donc c'est vraiment un problème. Et lorsque ces liquidités injectées par les banques centrales, que ce soit la Fed, que ce soit la BCE, ne font finalement que gonfler les prix des actifs et tourner en boucle dans la sphère financière, au lieu de venir irriguer l'économie réelle, quel est le risque à la clé ? Le risque à la clé, c'est un risque de crise financière. Earth crisis. Oh yeah, yeah. Oh mama, please mama, tell me mama how to survive this economical crisis. Oh mama, please mama, tell me mama how to survive this economical crisis. You can't even find a little cross in oil. Mama say bunks it from the idol fire. You can't even find a little cooking oil. Mama say boil coconut run down. Time is winding up, winding up, winding up. Winding up, winding up, winding up. Time is winding up, winding up, winding up. Time is winding up, winding up, winding up.
Merci à tous nos invités. Laurent Ferrara qui est avec nous par téléphone, et je ne l'ai pas dit, vous êtes professeur d'économie à la Schema Business School. Un grand merci également à Nicolas Véron qui est avec nous depuis Washington. Double merci puisque vous êtes réveillé très tôt. Un grand merci également à vous, Jésabelle Coupé-Souverain, de nous avoir accompagné ce matin. Je rappelle que vous sortez tout juste l'économie mondiale 2021 à la découverte. Et puis, puisque c'est la rentrée des classes, je le redis, l'économie en BD qui est parue chez Casterman. On mettra toutes les références de ces ouvrages sur la page de France Culture, sur la page de Culture Monde. Il y avait encore plein de sujets qu'on aurait pu évoquer. Mais rassurez-vous, la crise est là pour durer. Donc on aura l'occasion, Jésabelle Coupé-Souverain, d'en reparler. 11h52, minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, où en est le rapport entre la science et la religion ? Savants et croyants sont-ils réconciliés ? Troisième volet de votre enquête, Brice.
Bah oui, souvenons-nous que dans les années 10 du 21e siècle, assez récentes, on a vu l'apparition des quatre cavaliers du nouvel athéisme, qui étaient donc Sam Harris, spécialiste en neurosciences, auteur de The End of Faith, Religion, Terror and Future of Reason, publié en 2004, qui ouvrait le banc, et il a été bientôt suivi de Richard Dawkins, un biologiste, avec Pour en finir avec Dieu, un best-seller aux États-Unis en 2006, traduit en français en 2008. Christopher Hitchens, cet essayiste touche-à-tout que je vénère, dont le livre « Dieu n'est pas grand » a été publié également en 2009. « Comment la religion empoisonne tout » a également été publié en français, toujours en 2009. Quant à Daniel Dennett, « Breaking the Spell, Religion and Natural Phenomenon », un spécialiste en sciences cognitives, il a été publié, lui, en 2006. Mais ce qui frappait dans la démarche de ces fameux quatre cavaliers du nouvel athéisme, c'était que ces quatre-là refusaient la paix des braves que proposaient à l'époque les défenseurs raisonnables des religions depuis déjà un certain temps. C'était en gros, nous ne vous contestons pas l'autorité qui est la vôtre, par l'observation, l'évaluation, l'expérimentation, eh bien, vous construisez des modèles prédictifs et vous découvrez des lois qui gouvernent l'univers matériel, du plus grand au plus petit des éléments le composant. Nous vous abandonnons la question du comment, elle n'est pas de notre ressort, mais laissez-nous proposer nos propres hypothèses quant à la question du pourquoi. En quoi vous gêne-t-il que nous attribuions à un créateur l'origine des lois que vous-même vous observez ? Alors les nouveaux athéistes répliquaient qu'il était impossible de faire l'impasse sur l'éventualité d'une intelligence créatrice, d'un dessein intelligent, et que pour eux, eh bien justement, ça n'existait pas. Car c'est une manière de raisonner à l'envers, à partir de l'état présent de l'évolution, que de croire y déceler un aboutissement nécessaire et planifié.
Mais Brice, depuis, les fronts ont considérablement bougé.
Eh oui, en une douzaine d'années, on a vu, du côté de l'histoire des religions, d'abord, de grands changements. Dans « The Warfare Between Science and Religion », The Idea That Wouldn't Die, la guerre entre science et religion, l'idée qui ne veut pas mourir, l'historien américain des sciences Ronald Numbers met en pièce l'idée selon laquelle les religions révélées auraient constamment combattu le développement de la recherche scientifique. Au contraire, aucune institution n'a fourni, selon lui, autant de moyens à l'étude de l'astronomie, par exemple, que l'Église catholique entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Et jusqu'au XIXe, eh bien, la science ne se distinguait pas de ce qu'on appelait la philosophie naturelle. Tom MacLeish, un physicien qui est vice-chancelier de l'université de Durham, estime que le récit du conflit permanent entre science et religion a été déconstruit ces dernières années par plusieurs historiens des sciences, dont Peter Harrison et Ronald Numbers, dont je viens de parler. Mais ce sont surtout James Ungureanu, dans Science, Religion and the Protestant Religion, et puis Elaine Eklund, dans ses enquêtes sur les croyances religieuses des scientifiques, qui ont fait justice du mythe persistant d'un conflit irréductible entre savants et croyants. Une approche historiographique montre que c'est au milieu du XIXe siècle que s'est imposée cette thèse que ne vérifie pas l'histoire des sciences. Elle aurait pour origine, cette thèse, deux personnages éminents, tous deux américains, John William Draper, auteur d'un livre intitulé « Les conflits de la science et de la religion » qui a été publié en 1874, et Andrew Dixon White, qui était le premier président de la Société américaine d'histoire et qui était le fondateur de l'université Cornell. Il a publié en 1896 « A History of Warfare, of Science with Theology in Christendom »,« Histoire de la guerre, de la science avec la théologie dans la chrétienté ». Mais contrairement au grand récit de Draper et White, qui est une fable construite, l'histoire de la pensée scientifique est étroitement liée à celle de la religion et comporte bien plus de continuité que de discontinuité, écrit Tom MacLeish. Et il fait ressurgir des personnages décisifs de cette histoire, comme notamment l'évêque de Lincoln, Robert Grosseteste, qui, au XIIIe siècle, en Angleterre, recueillant des savants arabes les enseignements d'Aristote, fait figure de pionnier, puisqu'il est il eut l'intuition du Big Bang et qu'on trouve même dans ses écrits l'idée du multivers, une série de fluctuations parallèles à notre propre univers, régie par d'autres lois, d'autres constantes. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien, peut-être sous l'effet du développement des départements de Science and Technology Studies, les fameuses STS, en vogue aux États-Unis. On y étudie la manière dont les facteurs culturels et sociaux interfèrent avec le développement des sciences. Comme tout discours de vérité, celui des sciences, y apprend-on, est socialement construit. Le postmodernisme est passé par là. Il a jeté des doutes sur la capacité des disciplines créées par la modernité occidentale, et y compris la science, à rendre compte de manière rationnelle de la réalité. Là-dessus sont venues se greffer les angoisses nées des développements récents des sciences et des techniques, nanotechnologie, intelligence artificielle, OGM, transhumanisme, dérèglement climatique. Pensez que Bruno Latour appelle à réexaminer les rapports entre science, maîtrise et théologie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.